VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élections en République démocratique du Congo, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi des violences commises à l'égard des candidats de l'opposition qui font campagne pour des postes électifs dans le pays. Je suis très inquiète au sujet d'informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris des balles réelles, par les forces de sécurité contre des réunions de l'opposition, a affirmé Michelle Bachelet dans un communiqué. Madame Bachelet a exhorté les autorités congolaises à faire respecter le droit à la liberté d'expression. Sur le terrain, à une semaine de la clôture de la campagne électorale, l'intensification de la lutte entre les aspirants à la présidence. Le ticket d'opposition Félix Tshisekedi Vital Kamerhe a tenu jeudi un meeting devant des centaines de milliers de personnes à Mbujima et dans la province du Kasaï oriental. Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, représentant le gouvernement en place, a fait escale à Arou et Mahagi dans la province de l'Ituri, alors que Martin Fayoulou, le porte-étendard de la coalition d'opposition Lamouka, se dit bloqué par le pouvoir à Goma dans le nord Kivu. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Une fois au pouvoir, nous commencerons par la relance de la MIBA et l'amélioration de la vie sociale de la population, ont déclaré Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi devant plusieurs centaines de milliers d'habitants de Mbujimayi. Je sais qu'il n'y a ici pas d'eau ni d'électricité. La MIBA est en faillite, il n'y a aucune route en bon état, il y a un problème de scolarisation de nos enfants. Nous les réglerons une fois élus, a poursuivi Félix Tshisekedi, candidat du ticket CAP pour le changement. Pendant ce temps, Martin Fayoulou est resté bloqué à Goma dans le Nord Kivu. La campagne électorale n'est pas équitable. Qu'on nous laisse faire notre campagne, a souligné le candidat de la coalition Lamouka, qui, lors d'un point de presse, a raconté à la presse comment il a été empêché par le pouvoir en place de se rendre à Kindu, puis à Kolwezi. De son côté, le candidat du Front commun pour le Congo était jeudi à Arou et à Mahagi, deux territoires de la province de l'Ituri. Emmanuel Ramazani Shadari y a poursuivi son opération séduction et a appelé la population à voter pour lui pour un Congo meilleur. Il est attendu à Kisangani ce vendredi. Un autre candidat président de la République, le premier ministre honoraire Sami Badibanga, vient d'annoncer par Matadi le lancement de sa campagne électorale à moins de deux semaines des élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Violence en République centrafricaine, Amnesty International demande à l'ONU de mener une enquête approfondie sur l'attitude de ses troupes en RCA lors d'une attaque menée mi-novembre par un groupe armé contre des civils à Alindao, dans le centre du pays, qui a fait jusqu'à 100 morts. Dans un communiqué, l'ONG de défense des droits de l'homme affirme que selon plusieurs témoins sur place, les soldats de la paix de l'ONU n'ont pas répondu à l'attaque du groupe armé et se sont au contraire retirés, abandonnant des milliers de civils sans protection dans le camp de déplacés où ils résidaient. Amnesty réclame en conséquence une enquête immédiate et impartiale qui doit en particulier se concentrer sur le rôle des casques bleus de la MINUSCA, la mission de la paix de l'ONU en Centrafrique. Crise anglophone au Cameroun, les 289 personnes détenues pour des faits liés à la crise qui ont été graciées jeudi par le président Paul Biya seront libérées ce vendredi, a annoncé le ministre camerounais de la Défense Joseph Betty Assomo. Le ministre de la Défense a précisé dans son communiqué, et je cite, que cette mesure concerne uniquement les personnes dont l'examen approfondi des dossiers devant les juridictions militaires et les dossiers d'enquête en cours ont fait ressortir des charges d'une amplitude de gravité relative. Fin de citation. La clémence présidentielle ne concerne pas les criminels, les assassins et autres dangereux terroristes, ni les commanditaires et planificateurs de la crise sécuritaire en cours dans les régions anglophone du Nord-Ouest et du Sud-Sud-Ouest, a souligné le ministre camerounais de la Défense.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, président du principal parti d'opposition du pays, le PDCI, affirme avoir l'accord de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une alliance en vue de l'élection présidentielle de 2020. C'est ce que le leader ivoirien d'opposition a affirmé dans une interview sur France 24. Le PDCI était jusqu'au mois d'août l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara. Mais cette alliance a volé en éclats. M. Bédier a également invité une autre figure de proue de la politique ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à rejoindre sa plateforme. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant dans l'ouest du Niger, selon les Nations Unies, quelques 52 000 personnes ont été forcées de se déplacer depuis janvier dans les régions de Tillaberi et Taoua. Cette zone frontalière du Mali est le théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Nani Talani.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés indique être vivement préoccupé par la persistance de la violence dans les zones frontalières du Niger, jouxtant le Mali et le Burkina Faso, qui a forcé 52 000 Nigériens à fuir leur foyer au cours de cette seule année. Cette partie, appelée la zone rouge, est le théâtre d'effroyables violences de groupes armés qui tuent, enlèvent des civils, brûlent les écoles et pillent les maisons, les entreprises et le bétail. Ces menaces empêchent la distribution de l'aide à l'ensemble des personnes dans le besoin, regrette le HCR, qui dénonce une situation à la fois alarmante et extrêmement instable. En juillet et octobre, des corridors humanitaires négociés avec la force conjointe du G5 Sahel et les forces nigériennes avaient permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres à plusieurs milliers de déplacés dans la zone rouge.
Relations États-Unis-Afrique, les États-Unis vont accroître leurs investissements en Afrique pour contrecarrer les offensives de la Chine et de la Russie sur le continent africain. C'est ce que déclare John Bolton, conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale à la Maison-Blanche, qui était l'invité du groupe de réflexion Heritage Foundation jeudi pour discuter de la stratégie africaine de l'administration Trump. Le compte-rendu d'Abdourahmane Dia.
Washington n'entend pas laisser le champ libre à Moscou et à Pékin qui mènent des offensives en Afrique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale.
Nos grands rivaux que sont la Chine et la Russie développent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Ils investissent délibérément et de façon agressive pour devancer les États-Unis sur le continent. Entre 2016 et 2017, l'investissement direct chinois a atteint 6,4 milliards de dollars.
La Chine en a pris pour son grade. John Bolton l'accuse de favoriser la corruption en Afrique en facilitant des prêts à des pays qui ne respectent pas les normes démocratiques et les droits humains, qualifiant de prédatrice ces pratiques qui créent une relation de dépendance économique entre Pékin et le continent.
China uses bribes.
La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et utilise la dette pour tenir les États africains dépendants des demandes et de la volonté de Pékin. Ces investissements vont avec la corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les États-Unis.
John Bolton donne l'exemple de la Zambie qui doit 6 à 10 milliards de dollars à la Chine. Conséquence, Pékin pourrait prendre le contrôle de la Compagnie nationale d'électricité pour rentrer dans ses fonds. En contraste, Washington propose un partenariat gagnant-gagnant qui favorise les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et le développement de l'Afrique. Mais John Bolton insiste sur le bon usage de l'argent du contribuable américain.
Désormais, nous n'allons plus tolérer cette pratique de l'aide de longue durée sans résultat. Il n'y a pas d'assistance sans responsabilité ni d'aide sans réforme.
John Bolton a été plus clair sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Selon lui, l'administration américaine ne va plus permettre que les impôts durement payés par les Américains servent à aider des autocrates corrompus à remplir leurs coffres aux dépens de leur population ou pour commettre de graves violations des droits de l'homme. John Bolton a annoncé la mise en place d'une politique dite « Afrique prospère » qui met l'accent sur l'investissement, la croissance économique et une amélioration de l'environnement des affaires sur le continent.
Pour terminer, le Sénat américain a lancé hier un avertissement historique à l'Arabie Saoudite, pays allié de longue date des États-Unis, en adoptant à une majorité de 56 à 41 une résolution pour mettre fin au soutien de Washington à l'intervention militaire saoudienne au Yémen. La Chambre haute a aussi approuvé une autre mesure condamnant le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier au consulat de son pays à Istanbul en Turquie. Il s'agit assurément d'un double défi du Sénat à l'administration Trump qui s'est prononcée énergiquement contre une rupture de la coopération entre les États-Unis et le Royaume saoudien. Mais le sort de cette résolution à la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis reste incertain. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. www.voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.